Bonjour Toufik, bonjour à tous. Le multilatéralisme et le libre-échange d'Emmanuel Macron et Justin Trudeau face au nationalisme économique de Donald Trump. Le G7 à Ottawa se prépare, prise de parole et sourire déjà au début de ce journal. Nous nous pencherons aussi sur le portable à l'école ou plutôt dans les cours de récréation. Les députés planchent sur un texte aujourd'hui qui veut l'interdire. Et puis que deviennent les archives de Charlie Hebdo, les documents de soutien ou de haine reçus après les attentats de janvier 2015 ? L'hebdomadaire souhaite les confier aux archives de Paris. Ils vont faire front commun contre Donald Trump. À 48 heures du G7 qui doit se tenir au Québec, le président français est en visite officielle au Canada. Emmanuel Macron et son homologue Justin Trudeau ont affiché leur détermination dans la guerre commerciale qui les oppose aux États-Unis. Guerre commerciale née de la mise en œuvre par Washington de taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Et voilà donc le Français et le Canadien plus proches que jamais, Isabelle Labéry.
Sur les marches du Parlement, ils se donnent l'accolade comme deux copains qui se retrouvent. Face aux caméras, le sourire est radieux, le tutoiement spontané.
C'est ta première visite en tant que président, certainement, mais c'est pas ta première visite au Canada.
Justin Trudeau est heureux de pouvoir jaser avec son homologue, comme on dit en bon québécois.
On est de grands amis, de grands partenaires sur la scène internationale.
Les deux quadragénaires, partisans du libre-échange, affichent une conviction commune. Le commerce mondial ne peut pas se construire sur des mesures protectionnistes. Aucun des deux ne cite Donald Trump, mais c'est bien le président américain qui est visé.
Évidemment, la préparation de ce G7 qui intervient à un moment critique, mais qui est aussi une occasion d'avoir sur des sujets essentiels pour ce qui nous concerne une vraie convergence.
Emmanuel Macron et Justin Trudeau ont fait le tour de leurs partenaires. Ils se savent solidement soutenus. Sur le commerce, le nucléaire iranien ou l'accord de Paris sur le climat, pas question de céder aux exigences des Américains. Les discussions sur les bords du fleuve Saint-Laurent demain seront difficiles. Le G7 risque surtout de se transformer en 6+1, tous contre Trump.
Isabelle Labéry, l'envoyée spéciale de Radio France à Ottawa. L'Espagne a un nouveau gouvernement. Le socialiste Pedro Sanchez a présenté son équipe hier soir. 11 femmes pour 6 hommes, c'est inédit dans l'histoire du pays. Ce gouvernement est aussi pro-européen et minoritaire à l'Assemblée. Il ne pourra diriger qu'avec le soutien des nationalistes basques, des indépendantistes catalans et de Podemos, le parti de la gauche radicale. Des milliers de Chiliennes ont manifesté hier dans plusieurs villes du pays. Elles réclament davantage d'égalité et surtout une éducation moins sexiste. Manifestation hier aussi en Grèce sur la question là du nom de la Macédoine. Des rassemblements ont eu lieu dans 24 villes, villages et îles du pays pour refuser que le futur nom du pays voisin utilise le mot Macédoine. La semaine dernière, c'était l'inverse. Les Macédoniens slaves ont manifesté par milliers. Eux refusent de changer de nom. Et un compromis entre les deux gouvernements semble compliqué, Angélique Couronis.
Selon les médias, trois noms sont à l'étude entre Athènes et Skopje, Nouvelle Macédoine, Macédoine du Nord ou encore Haute Macédoine. Mais à la condition expresse pour Athènes que le nouveau nom soit acté dans la constitution macédonienne et utilisé erga omnes, c'est-à-dire tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Skopje de son côté veut soumettre la proposition finale à un référendum. L'affaire est donc loin d'être conclue, d'autant que côté grec, le parti de droite légitimiste Anel, qui gouverne avec le parti de la gauche radicale, a déclaré qu'il voterait contre tout compromis, tout comme l'ensemble de l'opposition risquant ainsi la chute du gouvernement. Athènes estime que le mot Macédoine appartient à son patrimoine historique et redoute des visées territoriales de sa voisine sur sa propre province macédonienne et bloque depuis 3 décennies la route de ce petit pays vers l'Union européenne et son adhésion à l'Alliance Atlantique. Pourtant, selon les médias grecs, Alexis Tsipras est optimiste, mais il a prévenu, si aucune solution n'est trouvée d'ici les 10 prochains jours, le dossier sombrera à nouveau dans l'immobilisme au grand dam de l'OTAN qui veut étendre sa zone d'influence.
Emmanuel Macron a bien bénéficié de ristournes de la part d'entreprises lors de sa campagne présidentielle l'année dernière. Une enquête de la cellule Investigation de Radio France révèle l'existence de tarifs très préférentiels accordés aux candidats En Marche par plusieurs prestataires, notamment sur des locations de salles. Ces ristournes ont échappé à la vigilance de la commission des comptes de campagne qui explique qu'il n'y a néanmoins aucun problème de son point de vue. Une affaire dont nous reparlerons tout au long de cette matinale. Le téléphone portable interdit dans les écoles primaires et les collèges. La proposition de loi portée par la majorité La République En Marche arrive ce matin à l'Assemblée nationale. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. L'idée est d'encadrer l'utilisation du portable par les enfants. Peu de changements en classe. Le téléphone pourra être un outil pédagogique encore. Non, tout l'enjeu sera de l'interdire dans la cour de récréation, Solène Lehen.
Retirez-leur leur portable à la récré et ces collégiens lancent une mutinerie.
C'est grave, vous voulez interdire le téléphone? Non.
Pendant les longues récréations, on s'ennuie.
Pendant le midi, on a deux heures pour manger, on fait comment? Personne respectera ça. Hein.
Jusqu'ici, le portable était autorisé dans la cour, sauf si le principal en décidait autrement. Désormais, avec cette loi, le portable sera interdit partout, cour comprise, sauf si le principal décide de l'y autoriser. Très fine nuance, mais qui change tout, estime Cathy Racombouzon, rapporteure du texte à l'Assemblée.
Aujourd'hui, on estime à 50% les établissements qui l'interdisent. Là, on sera sur une généralisation quasi totale.
Mais il pourrait y avoir 50% de chefs d'établissement qui, cette fois, autoriseront le portable.
Non, je ne pense pas parce que c'est pas l'esprit du texte.
Le gouvernement souhaite aussi que les sanctions possibles en cas d'infraction soient clarifiées, car aujourd'hui, les profs confisquent souvent le téléphone. Mais c'est illégal, précise Maître Pio, avocate spécialisée en droit de l'éducation.
La confiscation est interdite et c'est une atteinte au droit de propriété. En fait, le seul cas de confiscation autorisé par le Code de l'éducation, c'est pour un objet dangereux.
Le gouvernement espère ainsi faire voter un amendement autorisant les enseignants à confisquer les téléphones portables.
Et aujourd'hui aussi à l'Assemblée, les députés vont débattre d'un autre texte. Il vise, lui, à lutter contre les fausses informations. Une loi qui ne s'appliquera, si elle est votée, que dans les 3 mois précédant une élection nationale. Un candidat pourra par exemple saisir la justice et faire retirer un article si le journaliste est jugé de mauvaise foi. Tout le problème est de réussir à définir ce qu'est une fausse nouvelle et à préserver la liberté d'information. Le Conseil d'État annule l'arrêté sur le couvre-feu des mineurs à Béziers. Un arrêté pris en 2014 par le maire Robert Ménard imposait aux mineurs de moins de 13 ans de circuler s'ils n'étaient pas accompagnés par une personne majeure dans certains quartiers de la ville. Robert Ménard voulait ainsi lutter contre la délinquance à Béziers, mais le Conseil d'État a estimé que la mesure était injustifié. Retour sur cette affaire avec Antoine Marette.
En 2014, Robert Ménard est candidat à la mairie de Béziers. Il bénéficie du soutien du Front National et il axe sa campagne sur la sécurité. Une fois élu, il affiche sa volonté de lutter contre la délinquance qui touche en particulier le centre-ville et le quartier de la Devèze. Il prend alors une mesure très symbolique, un arrêté dans lequel il interdit aux jeunes enfants de circuler seuls la nuit pendant les vacances scolaires et le week-end dans ces parties de la ville. La Ligue des droits de l'homme dénonce aussitôt un excès de pouvoir. Elle saisit le tribunal administratif de Montpellier qui donne raison à Robert Ménard, estimant que son arrêté n'est qu'un simple rappel informatif de l'état de droit sans mise en œuvre automatique. La LDH décide de faire appel. Nouvel échec pour l'association. La Cour administrative d'appel de Marseille valide à son tour l'arrêté. Elle considère qu'il est légalement justifié par l'augmentation de la délinquance. Deux décisions de justice qui vont dans le même sens, mais qui viennent donc d'être annulées par le Conseil d'État. Il estime que la ville de Béziers n'a pas été en mesure de justifier l'existence de risques précis liés à la présence de mineurs de moins de 13 ans dans les quartiers et lors des périodes visées par l'arrêté.
Quatrième épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui, les prévisions de trafic sont quasiment les mêmes que lors de la précédente séquence, à savoir 50% des TER et des intercités, 60% des transiliens, 70% pour les TGV. Charlie Hebdo veut transmettre sa mémoire aux archives de Paris. Près de 3 ans et demi après l'attentat dont l'hebdomadaire satirique a été la cible, 11 personnes étaient décédées. Aujourd'hui, Riss, le directeur et copropriétaire du journal, souhaite que les documents reçus après cet attentat soient accessibles au public. Clarence Rodriguez.
La mémoire du journal satirique tient dans 35 grands cartons. Ils ont déjà été transférés des locaux du journal aux archives de Paris. Ce sont près de 70 000 documents, de lettres d'amour, de soutien ou d'insultes reçus juste après l'attentat du 7 janvier 2015. Ce sont les équipes de Charlie Hebdo qui ont traité tous les courriers, y compris les 24 000 dessins envoyés par des enfants et adolescents. L'association Dessiner, Créer Liberté en a sélectionné 150 pour faire partie de l'exposition Hashtag Je Dessine, exposition qui a tourné dans 18 villes et qui est arrivée ce mercredi à l'Hôtel de Ville de Paris. Poris, directeur et co-détenteur de Charlie Hebdo. Il s'agit de mettre à disposition de chercheurs, universitaires et sociologues tous ces précieux documents pour leur permettre de mieux analyser les réactions du public post-attentat. Une partie des courriers, témoignages et dessins pourra être prochainement consultable en ligne sur le site archives.paris.fr. En attendant, ce projet de don doit être définitivement validé par le Conseil de Paris lors de sa prochaine réunion en juillet prochain.
De légères pluies sur le quart nord-ouest du pays, la façade est également ce matin, avant le retour des orages entre l'Alsace, le Nord-Pas-de-Calais et près de la Méditerranée. Comptez 15 degrés ce matin à Brest, 20 à Paris et Châteauroux, 21 à Lyon, 22 à Marseille.